Chapitre 59. Sous le firmament constellé d'étoiles, Richard mobilisa toute sa volonté pour se tenir bien droit devant les hommes massés autour de lui à la lisière de la forêt de chênes. Quelques bandakars tenaient des bougies afin que tout le monde puisse bien voir. Lorsqu'il lancerait l'assaut sur Autumn dans quelques heures, l'aube serait levée. Richard n'avait plus qu'un désir avant de tirer sa révérence au monde. Investir la cité et sauver Callan. Mais s'il ne voulait pas gaspiller sa dernière chance, il devait mettre tous les atouts de son côté. La majorité de ces hommes n'avaient jamais livré une véritable bataille. Les résistants de Witherton avaient participé à l'incendie des dortoirs et à quelques escarmouches. Ceux de Northwick, où Richard avait rencontré le sage, avaient dû éliminer les soldats qui n'avaient pas consommé de ragoût empoisonné. Les grévistes de la faim s'étaient révélés fort peu nombreux. Cela dit, les bandakars avaient bien joué leur rôle. Ces conflits mineurs mais sanglants avaient renforcé la détermination des compatriotes d'Owen, leur montrant qu'on pouvait lutter pour sa liberté et exercer un plein contrôle sur son avenir. Mais aujourd'hui, tout était différent. À Autumn, l'affrontement aurait des proportions inconnues des bandakars. D'autant plus que la plupart des habitants s'étaient ralliés à l'ordre. Du coup, il ne faudrait espérer aucune aide de ce côté-là. S'il avait eu plus de temps, Richard aurait sans doute imaginé un plan capable de réduire peu à peu l'avantage numérique de l'adversaire. Mais le peu à peu ne collait pas car il y avait urgence. C'était maintenant ou jamais. Debout face à ces hommes, le sourcier devait trouver les mots adéquats pour leur gonfler le moral. Hélas, il avait du mal à se concentrer sur autre chose que la libération de Callan. Afin d'avoir une chance de réussir, il oublia momentanément sa femme et se concentra sur sa tâche actuelle. « J'aurais aimé que ça ne se passe pas ainsi, » dit-il. « J'espérais trouver une solution telle que le feu ou le poison, afin qu'aucun d'entre vous ne soit blessé. Mais ce n'est pas possible. Nicolas sait que nous sommes ici. Si nous fuyons, ces hommes nous poursuivront. Certains d'entre nous s'échapperont peut-être provisoirement. « Nous ne voulons plus fuir, » dit Hanson. « C'est exact, » confirma Owen. « Nous avons appris que fuir et se cacher est encore plus douloureux au bout du compte. » « C'est bien vu, mais aujourd'hui, certains d'entre nous risquent de mourir. Vous devez le savoir. Et avec de la malchance, nous y resterons tous. S'il y a parmi vous des hommes qui ne veulent pas se battre, qu'ils le disent. Une fois lancés dans l'action, nous dépendrons les uns des autres. » Les mains croisées dans le dos, Richard passa ses troupes en revue. Avec la pénombre, il n'était pas facile de distinguer les traits des combattants, surtout avec une vue défaillante. Le sourcier n'en avait plus pour très longtemps. Ses vertiges empiraient et rien ne s'arrangerait plus jusqu'à la fin. S'il voulait sauver Callan, il allait devoir agir vite, avec ou sans les bandakars. Aucun homme ne déclarant qu'il voulait abandonner, le sourcier reprit son exposé. « Nous devons approcher des chefs pour deux raisons. Primo, savoir où est Callan. Secondo, éliminer les officiers pour que les soldats soient désorganisés. Vous êtes tous armés à présent, et nous vous avons formés du mieux possible, compte tenu du peu de temps dont nous disposions. Mais vous devez savoir une chose de plus. Vous aurez peur, et moi aussi. » Pour surmonter cette peur, vous devrez puiser dans votre colère.
« Notre colère ?»
répéta un des hommes.
« Comment être furieux quand on meurt de peur ?»«
Ces hommes ont violé vos femmes, vos sœurs, vos mères, vos filles, vos voisines. Pensez-y quand vous serez face à eux. Ils ont déporté presque toutes vos femmes et vous savez pourquoi. Pour vous faire courber l'échine, ils ont torturé des enfants. » Imaginez la terreur de ces pauvres petits tandis qu'ils agonisaient, couverts de sang.
Une authentique fureur fit vibrer la voix de Richard.
Pensez à tout ça lorsque vous verrez ces bouchers avancer vers vous comme à la parade. Ces hommes ont tué des innocents, vos familles, vos amis, tous ceux que vous aimez. Faites-leur payer ces crimes quand vous en aurez l'occasion. Des bandakars ont été déportés, d'autres sont réduits en esclavage, des milliers pourrissent sous la terre. Ne l'oubliez pas lors du combat final. Il ne s'agit pas d'un conflit d'opinion, une divergence de point de vue qui pourrait se régler à l'amiable. Vous n'avez pas à vous interroger sur la légitimité de vos actes. Il s'agit de châtier des voleurs, des tortionnaires et des meurtriers. »
Richard se campa face à ses hommes.
« N'oubliez rien de tout ça quand vous affronterez ces chiens. »
Il se tapa du poing sur la poitrine.
« Et lorsque vous les combattrez, faites-le avec un cœur gonflé de haine. Luttez avec la haine en vous et tuez haineusement. Ils ne méritent rien de mieux. »
Un lourd silence tomba sur les résistants. Bouillant de rage et de haine, Richard, lui, avait hâte de passer à l'action. Il ignorait où était Callan, mais il avait l'intention de la trouver, de la libérer. Il comprenait pourquoi elle avait agi, et il aurait été le dernier à l'en blâmer, sachant quel genre de femme elle était. Elle l'aimait autant qu'il l'aimait, et elle avait pris les risques qu'il aurait pris à sa place. Raison de plus pour ne pas la laisser tomber. Il était sa seule chance de survivre. Et dire qu'elle avait joué cette petite partie pour rien. L'antidote n'était que de l'eau et plus rien n'arrêterait le poison. Richard dévisagea ses guerriers et fut ému de constater qu'ils étaient suspendus à ses lèvres. Cherchant une conclusion à la hauteur de l'événement, il se souvint des mots gravés sur le socle de la statue au sommet du col. La 8e leçon du sorcier. Talga Vasternich. Richard Rall, chef de l'Empire d'Aran, une terre qui luttait pour sa survie, traduisit ces mots à l'attention des Bandakar. « Méritez votre victoire !» L'aube se levait à peine quand les attaquants entrèrent dans la ville. Tout le monde était là, sauf Jensen, car Richard lui avait interdit de participer à l'opération. En partie parce qu'elle était physiquement moins solide que les hommes, mais surtout parce que sa jeunesse et sa beauté en feraient une cible. Le viol était une arme de choix pour les soudards de l'ordre, qui en faisaient un usage quasi mystique. Un trophée comme Jensen les fascinerait, c'était évident. Avec Kara, c'était différent. Véritable guerrière professionnelle, elle était la plus dangereuse du groupe, à part Richard. Jensen n'avait pas été ravie qu'on la relègue à l'arrière, mais elle avait compris les motivations de Richard et ne voulait pas lui donner des raisons supplémentaires de s'inquiéter. Betty et elle étaient donc restées dans la forêt. Un homme envoyé en éclaireur, parce qu'il connaissait bien la ville, sortit d'une rue latérale. Richard et ses compagnons le rejoignirent en longeant les murs afin de rester hors de vue.
« Je les ai trouvés !»
dit l'homme, le souffle un peu court. Il tendit un bras vers la droite. « Combien d'hommes ?»«
Toute la garnison, seigneur Hall. C'est là qu'ils dorment. Ils y sont toujours, comme vous l'aviez prévu, et pas encore réveillés. Le quartier qu'ils ont annexé compte plusieurs bâtiments administratifs. »
L'éclaireur hésita un instant.
« J'ai des nouvelles désagréables. Les citadins protègent les soldats de l'ordre. »
Richard se passa une main dans les cheveux.
Il devait se concentrer pour ne pas tousser et tenir debout devenait de plus en plus difficile.
« Que veux-tu dire ? »
demanda-t-il à l'éclaireur.
« Un cordon de citadins entoure l'endroit où sont cantonnés les soldats. Ces gens sont là pour défendre les hommes de l'ordre contre nous. Leur but est d'empêcher une attaque. »«
Je vois, »
fit Richard visiblement furieux. Il se tourna vers ses guerriers.
« Écoutez-moi bien. Nous nous sommes unis pour combattre le mal. Tous ceux qui se rangent dans le camp ennemi, même passivement, ont pour objectif le triomphe de l'injustice. » « Sergent, »
dit un homme mal à l'aise,
« faut-il comprendre que nous devrons recourir à la violence si des civils se mettent sur notre chemin ? Quel est le but de ces gens ? Nous empêcher d'éliminer l'ordre impérial. Parce qu'ils détestent la vie, ils préfèrent l'esclavage à la liberté. »
Plus déterminé que jamais, le sourcier développa son raisonnement.
« J'affirme que toute personne qui protège nos ennemis et tente de les maintenir au pouvoir s'est engagée dans le camp du mal. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Si ces civils essaient de nous empêcher d'agir, nous devrons les tuer. »
« Mais ils n'ont pas d'armes !»
objecta un Bandakar.
« Oh que si ! Ils en sont bardés. Leurs armes sont des idées maléfiques qui visent à réduire le monde en esclavage. Si ces idées triomphent, nous mourrons tous. » « Sauver vos familles et vos amis, et au bout du compte, limiter les pertes, implique d'écraser impitoyablement l'adversaire. Une fois que c'est fait, la paix peut s'installer.
Si ces gens tentent de s'opposer à nous, c'est pour permettre à des meurtriers de continuer de faire régner la terreur. Civils ou non, ils doivent être pris pour ce qu'ils sont, des serviteurs du mal. S'ils se dressent sur votre chemin, tuez-les. »
Il y eut un long moment de silence. Puis Hanson se tapa du poing sur la poitrine.
« La haine au cœur et pas de quartier !»« Pas de quartier et la haine au cœur !»
répétèrent les Bandakar en imitant le salut martial d'Hanson.
« On y va !»
lança Richard.
Ils sortirent de l'ombre des bâtiments et chargèrent. Dès qu'ils les entendirent, les citadins massés au bout de la rue se retournèrent. D'autres habitants des deux sexes vinrent se placer devant les bâtiments annexés par l'ordre impérial. Ses défenseurs semblaient particulièrement mal organisés.
« Non à la guerre! Non à la guerre! Non à la guerre !»
entonnèrent-ils en chœur.
« Écartez-vous !»
cria Richard en approchant.
Ce n'était plus l'heure de négocier. Le succès de l'attaque dépendait essentiellement de sa soudaineté.
« Écartez-vous !»
répéta le sourcier.
« Il n'y aura pas d'autres avertissements. Laissez-nous passer ou mourrez !»
« Assez de haine, assez de haine !»
crièrent les défenseurs en se prenant par le bras.
S'ils avaient mesuré la haine qui bouillonnait en Richard, ces gens auraient détalé comme des lapins. Il dégaina l'épée de vérité. La colère de l'arme ne déferla pas en lui, mais la sienne suffisait largement. Il ralentit un peu le pas.
« Filez d'ici !»
cria-t-il aux citadins.
Une femme aux courts cheveux bouclés fit un pas en avant. Empourprée de fureur, elle brandit le poing et cria
« Assez de haine, non à la guerre !»
Sans s'arrêter, alors qu'un cri de guerre montait du fond de sa gorge, Richard abattit son arme, décapitant la femme et coupant en même temps le bras qu'elle levait. Un geyser de sang aspergea les citadins massés derrière elle. Ils continuèrent à hurler leur slogan dépourvu de sens. Un homme commit l'erreur de vouloir arracher sa lame au sourcier. Il mourut le cœur transpercé avant d'avoir compris ce qui lui arrivait. Les Bandakar de Richard chargèrent impitoyablement. Avec pour seule arme des idées malfaisantes, les citadins de Houghton ne purent opposer aucune résistance. Blessés, mutilés ou tués, ils tombaient comme des mouches. Certains hommes tentèrent quand même de combattre à main nue, l'acier des attaquants eut vite raison d'eux. Comprenant que défendre les soldats de l'ordre allait leur coûter la vie, les citadins survivants s'éparpillèrent en criant des insultes à Richard et à ses hommes. Les guerriers du sourcier continuèrent leur charge en direction des bâtiments. Les soudards qui se tenaient devant comprirent qu'ils allaient devoir se défendre eux-mêmes, puisque les habitants de la cité n'avaient pas arrêté l'ennemi. Les hommes de l'ordre cantonnés dans l'Empire Bandakar avaient l'habitude de massacrer des victimes impuissantes. Depuis plus d'un an, il n'avait plus participé à une véritable bataille. Richard fut le premier à entrer au contact. Kara, un pas derrière lui sur sa droite, et Tom dans la même position sur sa gauche. Les premiers soldats tombèrent avant d'avoir dégainé leurs armes. Les autres tentèrent de résister, mais ils avaient perdu l'ardeur indispensable aux véritables guerriers. Richard avait le sentiment d'affronter des statues. Lent et pâteux, ses combattants frappaient alors qu'il était déjà loin d'eux et n'avait même pas le réflexe de s'écarter quand il les taillait en pièces. Virevoltant entre eux, il les désorientait puis les égorgeait ou les éventrait comme à l'entraînement. Certains furent décapités avant de s'être avisés qu'un danger les menaçait. Le sourcier se battait avec une remarquable économie de mouvement. Chacun de ses gestes était court et précis et ses coups tuaient presque chaque fois. Au combat, son but n'était pas de démontrer à ses adversaires qu'il était meilleur qu'eux. Les abattre lui suffisait amplement. Il ne leur donnait jamais une chance de ferrailler, les mettant aussi vite que possible hors d'état de nuire. Le balai mortel qu'il dansait à ces moments-là n'avait qu'un objectif, tuer. Son devoir, son désir et sa volonté se résumaient à cela. Les soldats de l'ordre n'étaient pas préparés à un tel déferlement de violence. Stimulés par ce spectacle, les Bandakar faisaient des merveilles. Quand il repéra un officier, Richard le désarma prestement et lui plaqua la pointe de son épée sur la gorge.
« Où sont Nicolas et la mère inquisitrice ?»
L'homme tenta de saisir le bras du sourcier. Une très mauvaise idée. D'un mouvement du poignet, Richard lui ouvrit la gorge d'une oreille à l'autre, puis il se tourna pour faire face à un soldat qui l'attaquait par derrière. Une parade,
une contre-attaque, et l'homme tomba à la renverse, le cœur transpercé. Les défenseurs perdaient régulièrement du terrain. Hélas, d'autres soldats sortirent des bâtiments. Mieux équipés que leurs camarades, ils semblaient aussi beaucoup mieux entraînés. Des tueurs redoutables. Richard croisa le fer avec tous les hommes susceptibles d'être des officiers. Avant de les tuer, il leur posa la même question qu'au premier type, mais n'obtint pas de réponse. Personne ne savait ou ne voulait dire où était le chapardeur et son otage. Richard devait combattre ses vertiges, souvent plus dangereux pour lui que les soldats ennemis. En se concentrant sur la danse avec les morts et tout ce que son arme lui avait appris, il parvenait à neutraliser les effets du poison. Mais ce petit miracle ne durerait pas et il le savait très bien. Les exploits des Bandakars le surprenaient. Comme des guerriers expérimentés, ils s'épaulaient sans cesse les uns les autres et cette tactique leur permettait de limiter énormément les pertes. Mais il y en avait quand même, comme Richard le constata en regardant autour de lui. La surprise était plutôt du côté de l'ennemi, qui se faisait littéralement massacrer. Les soldats de l'ordre n'avaient pas le dixième de la détermination des Bandakars. Habitués à vaincre sans péril, les hommes de Jagang étaient des bandits et des pillards, pas de véritables militaires. Face à des victimes qui relevaient enfin les Chines, ils luttaient de manière désordonnée, chacun songeant surtout à sauver sa propre peau. Les hommes du sourcier, au contraire, combattaient pour un objectif supérieur. Richard entendit Kara l'appeler. Il pensa d'abord qu'elle était en difficulté, mais en tournant la tête, il vit qu'elle avait capturé un officier. L'homme était à genoux, et elle le tenait d'une main par ses cheveux noirs crasseux, de l'autre, elle lui plaquait son agiel sur la gorge.
« Dis-le à monseigneur !»
cria la mort de Sith quand elle aperçut Richard.
« Je ne sais pas où ils sont !»
Folle de rage, Kara abattit son agiel sur la nuque de l'homme. Il vacilla, les bras tremblants et le souffle coupé par la douleur fulgurante. Les yeux révulsés, il faillit basculer en arrière, mais la mort de Sith le retint par les cheveux.
« Parle ! Ils sont partis !»
marmonna le prisonnier.
« Nicolas a quitté la ville cette nuit. Il y avait une femme avec lui, mais j'ignore qui c'est !»
Richard s'agenouilla et prit l'homme par le devant de sa chemise.
« À quoi ressemblait-elle ?»« Des cheveux longs !»
répondit l'officier à demi inconscient.
« Où sont-ils allés ?»
« Je sais pas. Parti, vite. »
Qu'a dit Nicolas avant son départ ?
L'homme recouvra un peu ses esprits.
« Il savait que vous attaqueriez à l'aube. Il m'a même indiqué le chemin que vous suivriez en ville. »
Richard eut du mal à en croire ses oreilles.
« Comment pouvait-il détenir ces informations ? »
L'officier hésita, mais Kara leva son agiel, lui déliant instantanément la langue.
« Je n'en sais rien. Nicolas m'a dit combien d'hommes vous auriez quand vous attaqueriez et quel chemin vous emprunteriez en ville. Il m'a ordonné de mettre en place un cordon de civils pour nous protéger. J'ai convoqué nos plus fidèles alliés et je leur ai dit que vous vouliez nous tuer pour le plaisir de faire la guerre.
« Où Nicolas a-t-il emmené cette femme ?»«
Je l'ignore. Il est parti à la hâte cette nuit. C'est tout ce que je sais. »
« Si tu étais averti de l'attaque, pourquoi ne pas avoir prévu une meilleure défense ?»«
Qui vous dit que je ne l'ai pas fait ? Nicolas m'a chargé de défendre la ville, et je l'ai assuré qu'une petite force comme la vôtre ne nous vaincrait pas. »
Quelque chose clochait, comprit Richard. « Pourquoi cette certitude ?»
L'homme sourit pour la première fois.
« Parce que vous ne savez pas combien nous sommes en réalité. » « Dès que j'ai été prévenu de l'attaque, j'ai appelé des renforts. Vous entendez cette corne de guerre dans le lointain ? Ils arrivent, et vous allez mourir !»«
Pas avant toi !» lâcha froidement Richard.
Sur ces mots, il transperça le cœur de l'officier. Pour être sûr d'avoir bien fait le travail, il imprima une torsion à la lame avant de la retirer du cadavre.
« Nous devons sortir les hommes de Strachnar, Kara !»
La mort de Sith et son seigneur coururent vers le champ de bataille.
« On dirait qu'il est déjà trop tard, »
soupira soudain Kara.
Des milliers d'hommes déboulaient de toutes les rues. Comment Nicolas avait-il connu leur plan à l'avance ?
Quand il l'avait mis au point, il n'y avait pas l'ombre d'un coureur dans le ciel et pas même une souris à 300 pas à la ronde. C'était incompréhensible.
« Par les esprits du bien, »
souffla Kara.
« Je n'aurais même pas cru que l'ordre avait autant d'hommes dans tout l'Empire Bandakar. »
Les hurlements de ses soldats perçaient les tympans de Richard. Sa vue se brouillait, il avait de plus en plus de mal à respirer et le temps s'écoulait inexorablement. Il devait retrouver Kalan. Vivre jusque-là, voilà ce que devait être son objectif. Il siffla l'ordre du rassemblement. Tous les Bandakars survivants accoururent, Hanson et Owen à leur tête. « Ils sont trop nombreux. Nous allons tenter une sortie. Pour le moment, restez groupés. Si nous parvenons à passer, dispersez-vous et retrouvons-nous dans la forêt. »
Kara sur un flanc et Tom sur l'autre, Richard chargea à la tête de ses hommes. Des milliers de soudards les encerclaient. Ils étaient si nombreux que le sol semblait bouger au rythme de leurs pas. Un peu avant que le sourcier et son groupe arrivent au contact avec l'ennemi, des langues de flammes blanches s'abattirent sur les soldats de l'ordre, les tuant par centaines. Des troncs d'arbres, des mottes de terre et des morceaux de corps humains volèrent dans les airs. Des têtes, des torses, des pieds ou des touffes de cheveux. Richard entendit derrière lui un rugissement familier. Se retournant, il vit qu'une boule de feu jaune volait vers lui en grossissant à mesure qu'elle approchait. Du feu de sorcier. Devenue blanche, la boule passa au-dessus de la tête du sourcier et de ses hommes, puis sa trajectoire s'infléchit et elle alla exploser au milieu des lignes ennemies. Le feu de sorcier consumait tout ce qu'il touchait. Une seule étincelle suffisait à brûler jusqu'à l'os la jambe d'un homme. Et quand on était blessé, la mort venait immanquablement et dans des souffrances indicibles. Mais qui bombardait ainsi les soldats de l'ordre? En face de Richard et de ses hommes, les soudards tombaient comme des mouches. On eût dit qu'une lame géante les fauchait à toute vitesse. Mais qui était à l'origine de cette attaque? L'heure des questions n'avait pas encore sonné. Pour l'instant, Richard et ses guerriers devaient s'occuper des soldats survivants. Ce ne fut pas trop difficile, car les hommes de Jagang, réduits au strict minimum, avaient perdu tout leur enthousiasme. Le feu continua à les massacrer. Les Bandakars entaillèrent un certain nombre en pièces, et des dizaines s'écroulèrent sans qu'une lame les ait touchés. Ils portaient une main à leur poitrine, poussaient un petit cri, et tombèrent raide mort. En quelques minutes, tout fut terminé. Stupéfiés et craignant que la mort s'en prenne à présent à eux, les Bandakars se massèrent autour de leur chef. Richard comprit que ces hommes n'avaient pas vu la scène de la même façon que lui. Par exemple, ils n'avaient pas pu repérer les boules de feu pendant qu'elles volaient. En revanche, ils avaient bien vu les hommes en flammes. À leurs yeux, ce retournement de situation avait tout d'un miracle. Richard repéra deux personnes debout à côté d'un bâtiment, un peu à l'écart du champ de bataille. Un homme de grande taille et une femme, beaucoup plus petite. À cette distance, il ne pouvait pas distinguer leurs traits. S'appuyant sur Tom, car ses vertiges s'aggravaient, le sourcier approcha des deux inconnus.
« Bonjour, mon garçon !»
s'écria Nathan quand Richard l'eut rejoint.
« Quel plaisir de te voir en bonne forme !»
Anna fit au sourcier un sourire débordant de tendresse et de bienveillance.
« Vous n'imaginez pas à quel point je suis content de vous voir !»
dit Richard. Il respirait le moins profondément possible pour modérer la douleur.
« Mais que faites-vous ici? Et comment m'avez-vous trouvé ?»«
Selon toi, à quoi servent les prophéties, mon garçon ?»
demanda Nathan. Avec ses bottes montantes, son pantalon noir, sa chemise à jabot et sa cape en velours vert, le prophète en imposait fichtrement. Très surpris, Richard remarqua que son ancêtre portait une très jolie épée dans un magnifique fourreau.
Pourquoi un homme capable de contrôler le feu de sorcier portait-il une arme si rudimentaire? Et pourquoi venait-il de la dégainer sans raison apparente?
Anna poussa un petit cri quand une des citadines qui avait décidé de protéger les soldats lui sauta dessus.
très grande et très mince, la femme semblait folle de rage et brandissait un couteau.
« Vous êtes des meurtriers !»
cria-t-elle.
« Vos cœurs débordent de haine !»
Anna lança un sort pour se défendre. Bien entendu, son adversaire ne fut pas affecté puisqu'elle était un pilier de la création. Nathan fit un pas en avant et transperça le torse de la citadine avec sa lame. Une infinie surprise sur le visage, la folle furieuse tituba en arrière puis s'écroula. Anna baissa les yeux sur le cadavre, puis elle foudroya Nathan du regard.
« Plutôt primaire, ta méthode !»«
Je t'ai dit qu'ils étaient insensibles à la magie, mais tu ne m'as pas cru comme d'habitude. »
« Nathan, » dit Richard, « je ne comprends toujours pas comment... »«
Approche, mon enfant !»
dit Nathan en faisant signe à quelqu'un qui se tenait derrière le sourcier. Jensen accourut et se jeta dans les bras de son frère.
« Je suis si contente de te voir !»
s'écria-t-elle.
« J'espère que tu ne m'en voudras pas. Nathan est entré dans la forêt peu après ton départ. » Je me suis souvenu que je l'avais déjà vu en Dara au palais du peuple. Sachant qu'il est un râle, je lui ai parlé de nos problèmes. Anna et lui m'ont proposé leur aide et nous sommes venus aussi vite que possible. »
Jensen leva un regard inquiet sur Richard, qui la rassura en la serrant contre lui.
« Tu as très bien agi, » dit-il.
« Face à une situation imprévue, tu as su utiliser ton cerveau. » La fièvre de la bataille étant retombée, Richard avait du mal à tenir debout. Voyant qu'il s'appuyait sur Tom, Nathan approcha et le soutint aussi.
« J'ai cru comprendre que tu as des ennuis avec ton don. Je pense pouvoir t'aider. »«
Je n'ai pas le temps. Nicolas le chapardeur tient Calan, je dois la trouver, sinon... »«
Ne te fais pas plus bête que tu l'es !»
coupa Nathan.
« Remettre les choses en place ne prendra pas longtemps. » Si un sorcier ne t'aide pas, comme la dernière fois, tu te souviens, tu n'iras plus très loin. Entrons dans un de ces bâtiments pour être tranquille. En quelques minutes, j'en aurai terminé.
Richard voulait retrouver Calan, mais il ne savait pas où chercher. Sans remettre à Nathan, un homme expérimenté était terriblement tentant. Le vieil homme avait raison. Sans aide, tout serait très vite terminé. En revanche, s'il reprenait le contrôle de son don, tout n'était peut-être pas perdu. Au moins pour Calan, qu'il aurait le temps de secourir. Jusque-là, il avait pensé demander de l'aide à Nietzsche, mais un sorcier serait 10 fois plus efficace qu'une magicienne. Personne n'était mieux qualifié pour remédier au désordre provoqué par le don.
« D'accord, mais il faudra que ça aille vite, » dit Richard.
Nathan eut un sourire plein d'assurance. « La marque des râles, disait-on.
« Suis-moi. Cette affaire sera réglée en un clin d'œil. »«
Merci, Nathan, » souffla Richard en emboîtant le pas au prophète.